Retrouvez Radio Foot International avec Canal+, pour être au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021 et de tous ses matchs.
Ça y est, c'est donc parti pour la 33e CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.
La CAN, c'est la fête de tout le monde.
La 33e Coupe d'Afrique des Nations.
RFI. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations.
Quand la CAN arrive chez lui.
La CAN de foot qui se tient au Cameroun.
Radio Foot International.
Ramenez cette coupe à la maison.
Cette CAN.
La CAN.
La CAN.
La CAN. Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci d'être au deuxième rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en ces temps de Cannes. Nous sommes là, bien sûr, au plus près de l'événement. Et nous commencerons par ces éléphants victorieux. La Côte d'Ivoire a remporté son premier match de la Cannes contre la Guinée équatoriale grâce à un certain Max-Alain Gradel. Une belle première victoire pour la Gambie. Les Scorpions débutent à la CAN par une victoire sur les Morabitounes de Mauritanie, mais avec un très beau but signé Jallo. Autour des Aigles, la confusion d'une fin de match. C'était cet après-midi, nous en avons déjà parlé, nous y reviendrons, car c'est l'arbitre qui est devenu l'homme de ce match avec un coup de sifflet final avant l'heure. Hugo Moissonnier sera en direct avec nous de Limbé. Demain déjà, les deuxièmes matchs du groupe A. Les Camerounais joueront contre les Éthiopiens, deux équipes épargnées par les cas de Covid. Malheureusement, les étalons, non. Ils récupèrent leur défenseur Edmond Tapsoba, mais perdent leur capitaine Bertrand Traoré, alors qu'ils doivent s'imposer pour survivre dans cette CAN. Enfin, nous parlerons un peu de football européen et d'un certain Kingsley Coman, bavarois devant l'éternel. L'attaquant français de 25 ans vient de prolonger son contrat au Bayern Munich pour les 5 prochaines années. Si les blessures le laissent enfin tranquille, un futur Franck Ribéry qui sait dans les rangs de ce club de Bavière. Et pour évoquer ces sujets ce soir, autour de moi, il y a Freddy Koula. Bonsoir Freddy.
Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Salut Afrique, salut continent, je vous aime et je suis content d'être avec vous.
Freddy, notre confrère gabonais fidèle au poste. Il y a aussi Nabil Djellit. Bonsoir Nabil.
Bonsoir Ali, bonsoir à tous.
Lui aussi Nabil, fidèle au poste.
J'essaierai d'être l'arbitre éventuellement des débats entre nos co.
Ça va, il y a une grande amitié. Entre
si, si on pouvait éviter de finir l'émission avant l'heure, ce serait bien.
Grande amitié entre Xavier et moi.
Il y a Laurent qui surveille, ne vous inquiétez pas. Okay. Il ne coupe pas les micros avant l'heure, Laurent Salerno. Bonsoir Xavier Barré.
Bonsoir Annie, salut les copains, c'est un plaisir de vous retrouver si tard le soir.
Merci, oui, d'être là. David Finzel m'a aidé aussi à préparer l'émission. Radio Foot, c'est parti.
De conserver le cuir avec Ndong, mais c'est perdu très vite avec les Ivoiriens là qui sont en surnombre. Thomas à l'approche de à la bord de la surface de la réparation, la frappe et le but, l'ouverture du score.
Gradel.
C'est Max-Alain Gradel, on l'avait vu plusieurs fois côté droit, il avait offert plusieurs centres. Et là, contrairement aux Algériens hier, eh bien, les éléphants de Côte d'Ivoire n'ont pas attendu longtemps.
Bien, ce fut rapide, messieurs.
Cinquième minute. Et l'ouverture du score.
Et une petite précision pour tous nos auditeurs, ceux qui veulent suivre cette émission peuvent aussi le faire à travers le Facebook Live puisque nous sommes filmés. Alors cette victoire des éléphants, eh bien évidemment, quand on commence une compétition, il est toujours plus simple de débuter par une victoire. Ils l'ont emporté, les Ivoiriens, face au Nzalang National, à l'équipe de Guinée équatoriale. Et on va tout de suite rejoindre Frédéric Suto. Frédéric qui est toujours à Douala dans le stade. Bonsoir Frédéric. Frédéric.
Oui, bonsoir Annie, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir la team Radio Foot.
La team est là, elle veille toujours. Frédéric, c'était donc le dernier match pour ce qui est de la phase de la première journée de cette phase de poule ou de groupe, peu importe. Quelle impression vous a fait la Côte d'Ivoire sortie vainqueur du match?
1 à 0, un de plus, on va dire. Hein. Il y a eu pas mal depuis le début de la compétition.
On ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de buts pour l'instant sur le Cameroun.
Non, mais c'est une bonne entrée en matière et c'est une bonne opération. 1-0, oui, certes, ils se sont fait peur, les éléphants, malgré ce but qui est arrivé très vite, hein, 6e minute, Max-Alain Gradel. Bon, les Équato-Guinéens, ils ont eu plusieurs fois l'occasion de revenir. Une équipe assez surprenante avec devant là, Emilio Nsoué. Là, il a eu des duels, bon, il les a perdus. Il y avait Badrali Sangaré en face de lui. Mais à l'arrivée, la Côte d'Ivoire, elle fait mieux que l'Algérie hier. En pleine chaleur, les Algériens, on le sait, hein, tenus en échec par les Sierra Leonais. Donc l'essentiel est assuré. Ce soir, en fin de match, on a pu faire entrer Nicolas Pépé, Wilfried Zaha. Bonne entrée pour Wilfried Zaha. Oui, bon match de la Côte d'Ivoire, même si c'était un peu plus compliqué en seconde période. Hein, il a fallu trouver un second souffle là, dans la chaleur, la moiteur de Douala.
Ouais. Douala avec donc un groupe E qui, où les cartes sont un peu rebattues. Et je vais aller tout de suite en parler avec quelqu'un qui, qui compte les points, bien sûr, dans
oui,
ce
là,
groupe.
Je n'étais pas content d'ailleurs. Mais enfin, bref, d'ailleurs, on peut demander, il y a pénalty ou pas pour vous là? Parce que moi, sur la situation où Deli fait une main sur une tête d'un joueur équato-guinéen dans la surface, j'étais très surpris que l'arbitre et la VAR surtout ne reviennent pas sur cette situation.
Frédéric.
La VAR a été sollicitée, hein, c'est surtout ça qui nous a étonnés. L'arbitre Redouane Chied, là, il avait la main sur l'oreillette. Bon, il y a eu une minute où tout le monde attendait et en voyant effectivement, comme vous, Nabil, le ralenti. Bon, des pénaltys, on en a sifflé plusieurs depuis le début de la compétition, pour moins que ça. Hein.
Oui, on a vu notamment la Tunisie et le Mali, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, avec des joueurs qui étaient même dos à la situation comme Skiri et moi le penalty me paraissait plus net là, mais bon après voilà, ça c'est l'effet de jeu, ça fait partie du football, mais enfin il y a d'autres faits plus irrationnels sur cette journée, mais on en parlera aussi également. Bah oui Annie,
mais du coup la Côte d'Ivoire prend la tête de ce groupe avec
3 points,
alors que l'Algérie eh bien du coup elle a un seul point.
Oui, donc pour l'instant ils sont qualifiés, les Algériens, les Ivoiriens également, c'est les équato-guinéens qui sont plutôt en difficulté.
Bah, ils vont se qualifier.
On verra, il faut rester.
Après, ce qui est intéressant, c'est dans quel ordre. Parce que jusqu'à présent, on considérait que l'Algérie est le grand favori. Là, maintenant, il va falloir qu'ils aillent gagner le dernier match contre la Côte d'Ivoire, qui sera d'ailleurs le match qui pourrait être celui du record d'invincibilité de l'Algérie.
D'égaler le record. Il ne veut plus entendre parler d'invincibilité.
Xavier, moi, j'ai ma théorie.
Je sais, je t'ai entendu, Nabil.
3 matchs nuls. T'es invincible et t'es éliminé. Si tu fais 3 points, t'es quasiment éliminé.
Non. Ah, 3 points, t'es quasiment qualifié.
Ah bon, tu fais 3 minutes, t'es qualifié.
On va pas faire les calculs là maintenant.
Avec les meilleurs 3e qui passent, la Mauritanie était 3e avec 2 points.
Non, mais on en avait déjà parlé. Xavier, plutôt sur la prestation de la Côte d'Ivoire.
Oui, c'est une équipe dont on attend toujours beaucoup et qui nous a un peu déçus ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus le niveau de talent qu'ils avaient dans les années 2010, les années Drogba, Yaya Touré et toute cette génération-là.
Non, Drogba, il était en tribune, là, il n'est plus sur le terrain.
Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on attend toujours beaucoup de la Côte d'Ivoire et qu'en fait, c'est une équipe, c'est une autre équipe maintenant, c'est une autre génération.
Je te trouve dur quand même sur la qualité de leur effectif là, actuellement. Ils sont capables d'aligner deux équipes de très bon niveau. Le problème, c'est pas les joueurs. Pardon, Frédéric ?
Oui, non, effectivement. Alors, ça ne suffit pas de regarder le CV, mais vous regardez où ils jouent. Ils sont tous dans les grands clubs européens et la plupart du temps, ils sont titulaires. Hein.
Bah oui. Je suis d'accord avec vous parce que quelle sélection au monde ou en Afrique peut se permettre de laisser Wilfried Zaha sur le banc ? Nicolas Pépé, même si c'est un joueur qui est en difficulté actuellement, ça témoigne quand même d'une qualité supérieure. Quand vous avez un joueur comme Kessié,
le Nigeria, le Mali ont aussi des réservoirs importants.
La Côte d'Ivoire, c'est quand même plus impressionnant.
La Côte d'Ivoire,
c'est le poste de gardien qui est en revanche une interrogation.
C'est pas la seule sélection africaine où il y a parfois des problèmes poste de gardien. Mais ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est que pendant une décennie, c'était toujours les favoris de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ne l'ont pas toujours gagné. Ils ont fini par la gagner
en 2015, sans Drogba.
Mais à un moment, presque, on ne les attendait plus. Mais ils ont été systématiquement les favoris. Aujourd'hui, quand tu cites les favoris, est-ce que tu cites spontanément la Côte d'Ivoire ?
Non.
Est-ce que les barrages de la Coupe du Monde, les barrages de la zone Afrique, la Côte d'Ivoire n'y est pas. Elle a été battue par le Cameroun.
Oui, c'est dans un groupe compliqué. Oui,
dans un groupe difficile. Ils ne sont pas passés. Donc, du coup, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une équipe qui a d'énormes qualités. Mais on a tendance à les voir encore très beaux comme ils l'étaient avant. Ils le sont peut-être un petit peu moins.
Bon, en tout cas, ils l'ont emporté. Moi, j'ai question, Frédéric. On a évidemment beaucoup parlé de l'absence du gardien titulaire, hein, Sylvain Ngbo. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Sangaré qu'il remplaçait ?
Il a fait un bon match, hein, sans garer, pas de faute de main. Bon, il y a peut-être eu, oui, une ou deux sorties un peu hasardeuses. Non, pas grand-chose à se reprocher. Il devait avoir une sacrée pression, effectivement, sur les épaules. Il a pris, alors il s'en doutait qu'il allait jouer. Bon, Sylvain Beauvau, suspendu pour dopage, ça a été confirmé ces derniers jours, mais s'y attendaient les Ivoiriens, même s'ils
ont
fait
appel. On
l'avait
déjà dit dans Radio Foot. Hein grâce à notre
spécialiste. Mais il avait essentiellement joué des matchs amicaux jusque-là avec la sélection, et c'est une chose que d'être dans le groupe, mais là, de devoir assumer ce rôle-là, non, rien à dire. Bon match de Sangaré, mais il faudra attendre un peu plus pour savoir ce qu'il en est réellement, hein, ouais, et notamment ce match face à l'Algérie.
Mais en tout cas, c'était l'entrée de la compétition. Freddy Koula, un complément sur cette rencontre ?
Heureusement qu'il y a eu Sangaré, je voulais dire, parce que ce match-là, évidemment, la Côte d'Ivoire, hein, ils ont très tôt marqué dans ce match. Je pense que ça les a un peu mis à l'abri, mais ils ont été outrageusement dominés quand même par cette équipe de Guinée équatoriale.
Dominés ?
Oui, je pense sur les actions, ils avaient plus d'actions nettes, indépendamment. La Côte d'Ivoire n'a cadré que deux fois dans ce match-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on regarde quand même la qualité de l'effectif de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour ce qui est aussi de la fanbase entre guillemets au Cameroun aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des équipes les plus attractives. On a vu, ils sont sortis aujourd'hui, marcher un tout petit peu, ça n'a pas fait 30-40 mètres, tout le monde a failli venir autour de l'équipe. Mais ce qui est important, je pense que cette équipe peut monter en puissance s'il y a une alchimie. Baumel est toujours en train de chercher la bonne formule. Aujourd'hui, Pépé était sur le banc, Zaha était sur le banc. Je pense qu'il y aura une petite rotation. On a vu Kessié qui était en difficulté en première mi-temps avec le petit coup qu'il a pris au visage. Je crois qu'avec Kessié qui sera beaucoup plus en jambes sur les prochains matchs, il y aura quelque chose à faire avec la Côte d'Ivoire, et je suis certain que ça va être un beau match contre l'Algérie.
Il y a la Sierra Leone déjà aussi à jouer pour les Ivoiriens. Donc oui, la question pour la Côte d'Ivoire, bon, c'est pas tellement de savoir si elle a de la qualité ou pas. Elle a évidemment de la qualité pour avoir pour être sur son potentiel. C'est une équipe qui pourrait faire partie des équipes qui peuvent aller au bout. C'est surtout le liant, l'esprit collectif, la gestion, le management des stars, ceux qu'on laisse sur le banc. Est-ce que ça va être la paix civile? Tant que ça gagne, ça donne raison au sélectionneur. Mais aujourd'hui, il fait quand même passer certains joueurs par rapport à d'autres qui n'ont pas les mêmes références en club. Je suis désolé. Dire Wilfried Zaha, c'est une des stars de la Première Ligue. Alors, OK, Gradel est efficace et c'est un taulier de cette sélection, notamment en club, mais
après ça, il a loupé les derniers matchs. Il y avait eu un petit souci avec Baumel, etc. Il est revenu. Je crois qu'il était pas très bien.
Non,
je pense
qu'il était un peu malade,
ouais. Moins bien. Je pense que sur les prochains matchs, il devrait pouvoir débuter. Mais Gradel, c'est un cadre de l'équipe.
Oui,
c'est le capitaine aujourd'hui.
La force de Hervé Renard en 2015, c'est que c'était un guide. Voilà. Moi, ma question, c'est aussi le management. Baumel, il y a déjà un échec. Annie, vous avez raison de l'avoir rappelé. Ils sont fait éliminer par le Cameroun. Alors, j'espère que ça va.
C'est moi qui l'ai rappelé, ça. Hein? Parce que oui, justement, on l'oublie un peu.
Ouais. Non, mais j'espère que ça va aller. Attends, je vais jusqu'au bout quand même, Xavier, et je te ferai des compliments après, si tu veux, éventuellement. Non, mais est-ce qu'il va y avoir un sentiment de revanche pour cette Côte d'Ivoire? Parce que si c'est le moteur, sur un tournoi, ça peut marcher, puisqu'ils seront absents à la prochaine Coupe du Monde. Parce que la Côte d'Ivoire...
Ils étaient déjà pas en 2018.
Soit elle gagne la CAN, là, soit elle disparaît pour un bon moment.
Hein. Xavier?
Non, moi je répète ce que j'ai dit. La Côte d'Ivoire, elle n'était pas non plus à la Coupe du Monde 2018. Elle avait été battue dans son groupe par le Maroc.
Ouais.
Donc c'était une très belle équipe qui nous a fait rêver et dont j'étais absolument fan.
Mais on se souvient quand même en 2015, c'était un peu la fin d'une génération.
Exactement, on les attendait plus quand ils la gagnent.
Mais là, il y a une histoire de reconstruction. Déjà, la fédération, vous avez vu tout le bordel qu'il y a autour. Là, l'équipe est en train de se reconstruire avec les égos autour. Il y a quand même énormément d'attentes par rapport aux visages qui sont en train de reconstruire cette équipe. Là, Aurier n'était pas là. Mais en termes de fighting spirit, en termes de motivation, Aurier, il est super important dans le vestiaire. J'espère qu'il reviendra. Il n'était pas dans ce match-là. Il a dû colmater un peu les brèches. Mais petit clin d'œil quand même au but de Max Gradel. Après, derrière la célébration, c'est en hommage à son papa parce que derrière, il a eu un petit malheur il y a quelques jours.
Après, il a perdu son papa il y a quelques jours et effectivement...
Il n'a presque pas célébré. Il a fondu en larmes.
L'implication de Max-Alain Gradel dans cette sélection, elle est indiscutable aujourd'hui. Il faut rappeler qu'il était aux Jeux Olympiques, qui font encore un parcours extraordinaire, même s'il tombe de façon incroyable contre l'Espagne après prolongation. Mais c'est important, je pense, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, de rebâtir autour de joueurs qui ne font pas de chichi pour venir. Parce que toutes ces années de succès, ça a été quand Drogba et Yaya Touré étaient là, ils venaient à chaque fois, alors qu'ils avaient des sacrés défis avec leur club.
Ouais.
Et là, maintenant, vous avez des gars, effectivement, ils ont du talent, mais ils viennent pas, ils sont fâchés. Et ça, c'est très négatif pour la construction d'un groupe.
On pense à Fofana, dans cette équipe-là, il aurait été phénoménal.
Frédéric, je ne sais pas pour conclure, vous, votre sentiment sur cette équipe.
Il va falloir que sur le terrain, il y a Max Alain Gradel, bien entendu, mais qu'il y en ait d'autres qui, au-delà du nom qu'ils portent et de ce qu'ils font en club, s'assument un petit peu comme les nouveaux patrons. Hein, on parlait de l'ancienne génération. Et Patrice Baumel, alors est-ce que ce leadership, il peut venir de lui ? J'ai l'impression que vous émettiez des doutes, Nabil.
Oui.
Il en appelait clairement hier à ses joueurs en disant « ça dépend d'eux maintenant hein. ». Quand on regarde notre groupe, il est incroyable, il est fantastique. Est-ce qu'ils veulent ensemble, est-ce qu'ils vont décider ensemble de faire quelque chose de grand ? Comme si finalement, la balle, il a renvoyé dans leur camp. Oui, les joueurs de qualité, il les a. Maintenant, les Franck Caissier, les Jean-Michel Seri, à eux là, de taper du poing sur la table un peu plus. Ils se sont fait balader là, au milieu de terrain aujourd'hui.
Tout à fait. Enfin, Sangaré, heureusement que Sangaré était là pour compenser. Mais après, par exemple, vous parliez de Baumel. Baumel, dans une sélection normale, enfin pas normale, dans une sélection où il y a un esprit un peu d'institution, Wilfried Zaha, jamais il est repris et jamais il fait la canne. Parce qu'il vient au menu, Wilfried Zaha.
Après, c'est pas pareil que Fofana, par exemple. Zaha, il était souvent malade, il l'a expliqué. Je pense qu'il y a eu quand même un arrangement avec Baumel. Et puis, sur la question de la gestion...
Il va y avoir d'arrangement, quoi.
Sur la question de la gestion de groupe, ce n'est pas anodin de voir aujourd'hui Didier Drogba être carrément dans le staff des éléphants de Côte d'Ivoire. On a vu qu'il
venir
a eu,
leur parler,
sur
oui.
les images, il a eu des échanges avec Allaire, etc. Il a une sorte de leadership naturel qui va pouvoir aussi seconder entre guillemets Baumel qui a besoin de fédérer.
Frédéric, juste pour terminer, Sébastien Allaire, lui, n'a pas marqué alors qu'on le voit souvent à l'œuvre quand il joue du côté de l'Ajax.
Oui, c'est ce que j'allais ajouter. Il va falloir qu'il trouve sa place dans ce 11 ivoirien.
Exactement.
On sait que ça fait pas très longtemps qu'il a rejoint la sélection. Pour l'instant, c'est pas le Allaire de l'Ajax et de la Ligue des Champions. Hein.
Oui.
Très décevant ce soir.
Il a été bon en éliminatoire quand même, faut le dire.
Oui, c'est le premier match. Il a pas été trop trouvé. Il pèse quand même. Il fixe les défenseurs. Ensuite, c'est aux excentrés de faire les différences. C'est ce qui s'est passé sur ce match-là. Je pense qu'il y a pas trop de doute à avoir sur lui.
Un petit mot sur le Nzalang, Frédéric.
Le Nzalang, on a beaucoup aimé avec Fabien Essiane, notre correspondant Guinée-Équatoriale, Cameroun, là, qui était à nos côtés. Ils ont eu plus d'occasions, plus de tirs cadrés. Ils peuvent s'en vouloir. Il y a le pénalty non sifflé, mais il y a eu plus que ça. Non, il y a une vraie qualité technique.
Face à face, Insoué surtout.
Soué, l'ancien de cette équipe, le buteur, il a eu 2-3 fois vraiment le ballon du but de l'égalisation. La question, c'est est-ce qu'ils pourront reproduire cette prestation face au Fenech, face aux Algériens, parce qu'ils ont beaucoup donné physiquement ce soir quand même, les Équato-Guinéens.
Pour terminer, Frédéric, juste une chose, il y avait du monde dans le stade, parce qu'on sait que la Guinée équatoriale, c'est pas trop loin, et les Ivoiriens, il y avait une délégation aussi.
Oui, puis il y a surtout le porte-parole du gouvernement qui, ce matin, a exhorté les Camerounais à aller au stade. Hein, parce que c'est vrai que ce qu'on a vu hier, c'était un petit peu décevant. Un stade de 50 000 places, flambant neuf. Le stade est super, mais hier, il n'y avait personne. Un peu plus, oui, aujourd'hui, un peu plus. Une vraie délégation équato-guinéenne et de même pour les Ivoiriens, les supporters habituels. Oui, il y avait un peu plus de monde.
Un peu plus d'ambiance. Donc.
Au moins, ils n'ont pas de problème pour faire respecter la jauge.
la Guinée équatoriale qui jouait quand même pour la première fois de l'histoire une CAN en dehors de son pays, parce que souvenez-vous, les deux premières qu'on organisait avec le Gabon et la deuxième à domicile.
Elle était dans l'organisation, donc elle était qualifiée d'office. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été en direct avec nous dans ce Radio Foot. On continue, nous, sur la CAN. Merci beaucoup. Et sur les autres matchs. Justement, les autres matchs de la journée. Eh bien, on va quand même rendre un coup de chapeau à des débutants, à une toute petite nation qui a laissé son empreinte, déjà, sur la CAN du Cameroun.
D'avoir su cette possibilité avec le décalage de Barrault. Elle est exceptionnelle, cette frappe signée Abdel Diallo. Et la Gambie, pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations, s'offre une merveille grâce à son attaquant Abdel Diallo. La Gambie mène à 0.
Oh,
Ils sont des débutants, mais ils n'ont pas été intimidés par l'enjeu et ils piquent ces scorpions. La Gambie remporte son premier match disputé dans une phase finale de la CAN. Victoire 1-0 sur les Morabitoun, grâce donc à ce but, vous l'avez entendu, de Diallo. Qui a rendu très heureux les supporters gambiens dans ce stade de Limbé et sûrement aussi là-bas du côté de Banjul. C'était sous la baguette de leur sélectionneur belge d'ailleurs, Tom Saint-Fit. La belle aventure pour une équipe qui semblait un peu transcendée par l'enjeu et par sa première apparition, Freddy.
Bah, c'est une équipe que j'ai vu jouer, moi. Souvenez-vous, ils étaient dans le groupe du Gabon il y a quelques mois en éliminatoire.
On se souvient d'une épopée.
Ils avaient perdu à Libreville. Ils avaient déjà montré une sorte de structuration et surtout, ils savent défendre. Ils défendent super bien, de façon solidaire. Et puis chez eux, ils ont été quasiment imprenables sur les matchs éliminatoires.
C'est ambiance traquenard quand même chez eux, il faut le dire.
C'est exactement ça. C'était donc du coup, la Mauritanie,
ils avaient été sanctionnés par la CAF.
Les Morabitoun étaient dans un traquenard, ils n'ont pas pu s'en sortir. Ce qui est important de savoir, c'est que cette équipe-là, généralement, c'est un peu le tarif. Elle marque et elle défend bien derrière. Aujourd'hui, je pense qu'elle a défendu avec les tripes, avec les crocs. Et puis ce but, il est juste magnifique.
Ah oui, pour moi, c'est quasiment le plus beau but depuis le début de la
compétition. Derrière celui de Boupenza.
C'est-à-dire qu'il y a un but sur deux, c'est
derrière,
un penalty.
Derrière celui de Boupenza.
Un garçon qui
l'a pas vu celui de Boupenza.
Si, sur excentré côté gauche qui frappe.
Un garçon qui est passé par Génération Foot au Sénégal d'ailleurs.
Ouais.
Et par le FC Metz.
Mais il est passé par le FC Metz. Là, il est prêté en Belgique.
Il est prêté à Serein, le club de Liège.
Il faut dire que la Gambie, c'est pas loin du Sénégal, n'est-ce pas?
Non, mais bien sûr. Non, mais
c'est à l'intérieur du Sénégal. Je précise pour certains de nos auditeurs.
Enclavé dans le Sénégal, effectivement. Mais ce qui est assez intéressant dans cette équipe, c'est qu'en plus, il s'appuie sur une épine dorsale de joueurs qui jouent en Serie A. Et Omar Collet, le défenseur central, le géant, là, il joue à la Sampdoria. Vous avez Souleymane Maré au milieu. Alors lui, il n'est pas en Italie, mais il est à la Gantoise. Ouais. Et puis, vous avez Moussa Baro, qui est vraiment très, très fort, qui joue à Bologne.
Et donc,
ces trois garçons-là, avec Hassan Cissé et Abli Diallo devant, c'est vraiment un axe. C'est un jeu très direct qui va très, très vite. Ouais. Et les Morabitoun, qui avaient une défense renforcée à 5, enfin à 3 ou à 5 en version défensive, ils étaient pris de vitesse à chaque fois. Et c'est ça qui a été intéressant, c'est que cette équipe gambienne, avec ses moyens, finalement, elle pratique un football très moderne, très rapide, très vertical.
Et surtout direct. Tu ne verras pas faire de fleurituels. Moi, je les ai vus à Franceville, notamment. Ouais, ils restent quand même sur la dynamique de ce qu'ils ont montré pendant ces éliminatoires-là. C'est que cette équipe qui est super forte sur la verticale et qui sait vraiment, vraiment tenir. Même quand il y a la pression, ils sont super, super solides.
Et Nabil, du coup, eh bien, les Morabitoun, la Mauritanie, qui court toujours après une première victoire en phase finale, malheureusement...
Elle a été battue, il faut attendre encore.
C'était un match qui était, accessible face à la Gambie. Vous avez dit que c'était leur premier match lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Moi, les Mauritaniens, je les ai quand même trouvés intéressants après avoir été menés au score. J'ai quand même vu faire du jeu, ce que je n'avais pas vu, ou très peu vu sur la dernière CAN, où c'était un bloc bas qui se projetait assez rarement. Mais il y a un garçon qui a fait du bien quand même à cette équipe de Mauritanie qui arrivait entre les deux cannes, c'est quand même Camara.
Lequel?
Celui de Fulham. Ouais, Aboubakar. Ouais.
Il est à l'Aris Salonique maintenant.
Mais il appartenait à Fulham. Celui qui est un dragster, qui est rapide, qui percute. Autour de lui, c'est peut-être un petit peu moins bon. Mais je les ai vus quand même développer du jeu sur les côtés. Il y a eu quand même plusieurs situations. Maintenant, il va falloir réussir un exploit sur les deux derniers matchs. Mais avec une victoire, c'est envisageable.
Ils ont surtout joué les maladresses. Mais il y a beaucoup aussi d'attentes en Mauritanie autour de cette équipe-là.
Mais ils ont changé aussi de sélectionneur avant la compétition. Ouais.
Ils ont remercié Corentin Martins, qui leur avait fait pourtant des progrès incroyables en 7 ans.
C'est pas toujours bon signe, ça.
Et ils ont mis Didier Gomez d'Arosa.
C'était plus terrible entre Martins, on l'a dit, avec les dirigeants. Mais ce qui est certain, c'est que les gens autour de cette équipe-là, ils vivent, ils respirent presque pour les Morabitoun. Je pense que ce soir, il y a une grosse déception parce qu'ils s'y attendaient à un meilleur match de leur part.
Exactement.
Ouais, mais est-ce que c'est pas le résultat aussi de cette politique qui est d'aller chercher des joueurs de 3e division nés en France?
C'est ça qui les a permis de sortir. La Mauritanie n'était pas grand-chose.
Il y a un moment où il faut sortir aussi des joueurs du cru.
Non, mais Xavier, ils sont en train de se reconstruire, les Mauritaniens. Leur football, ça fait 3-4 ans, ils ont amorcé une bonne trajectoire. Je ne pense pas que ce soit ça qui leur a empêché aujourd'hui de gagner le match. Simplement qu'ils ont été super maladroits. Dans le jeu, ça se voyait qu'ils étaient bien meilleurs que les Gambiens. Mais aujourd'hui, ça n'a pas passé. Les Gambiens, encore une fois, ils font ça à tout le monde. Ils ont fait ça à l'Angola, ils ont fait ça au Gabon. C'est dur de les battre, ces Gambiens, même s'ils viennent pour la première fois.
Un autre match a tenu en haleine, et tient encore en haleine d'ailleurs, allez. les spectateurs et surtout les observateurs de cette CAN. Parce que c'était un match entre Jean Plumet, entre Aigle du Mali et Aigle tunisien. Mais c'est un homme qui a volé la vedette. Oui. Et c'est un homme en noir, le Zambien, Jani Zikazwe, devenu l'homme du match, d'une rencontre surtout qui n'en finit pas. Hugo Moissonnier, bonjour. Bonsoir plutôt d'ailleurs, vu l'heure.
Ah oui, bonsoir. Bonsoir, Annie. Bonsoir même. Parce qu'on s'est vu, on s'est plutôt parlé il n'y a pas si longtemps.
Exactement.
Et bonsoir à Hugo, à tous les amis autour du plateau.
Le match s'est bizarrement terminé, étrangement terminé, avant l'heure. On en a déjà parlé dans la première partie de Radio Foot. Mais pour résumer, racontez-nous cette fin un peu rocambolesque, mais surtout ce qui s'est passé autour et après.
Alors, vous parlez d'une fin, moi je vous parlerai de plusieurs fins,
oui.
Ce qui fait qu'on n'est pas resté sur notre fin en termes de polémique et de surprise. Et il y a eu une première tentative de la part de notre ami l'arbitre zambien aux alentours de la 85e minute, un coup de sifflet ou plusieurs coups de sifflet et une gestuelle un peu étrange qui ont même donné l'envie à certains joueurs maliens de lever les bras au ciel comme s'ils avaient déjà remporté le match 5 minutes avant son terme, et également des Tunisiens qui ont bondi de leur banc de touche, notamment le staff technique, pour dire non, il reste encore 5 minutes à jouer. Donc ça, c'est la première tentative. À la limite, c'est passé, même si globalement, la prestation de l'arbitre, là, elle commençait à tourner plutôt vers le négatif en termes de bilan. Et puis alors, à la 90e minute, techniquement, sauf qu'on était à 89 et on va dire 50 secondes, là il siffle vraiment la fin du match. Sauf que quand vous n'atteignez pas la 90e, bah, le match il faut pas l'interrompre, il faut pas le terminer, c'est 90 au minimum. Et là il renvoie les deux équipes au vestiaire, évidemment grosse polémique, les Tunisiens pas contents
furieux.
Du tout, une escorte policière pour raccompagner le quatuor arbitral vers la sortie. Donc ça c'est pas terrible. On se dit qu'on va en rester là, donc moi pour vous parler de moi, mais pour vous dire comment j'ai vécu la scène, je descends de la tribune de presse, je me rends vers ce qu'on appelle la zone mixte, donc la zone d'interview, dans laquelle doivent passer les acteurs de la rencontre pour qu'on puisse les interviewer. Donc ça, c'est vraiment un protocole de fin de match, d'après-match, tout à fait classique, d'autant qu'il y a un autre match qui devait arriver après, celui dont vous venez de parler, Mauritanie-Gambie. Et là, ce qui se passe, c'est que quand on se pose, entre guillemets, dans la zone d'interview avec les collègues maliens et camerounais, un journaliste camerounais vient de nous dire: écoutez, j'étais en conférence de presse, c'était la conférence de presse de Mohamed Makassouba, le coach du Mali, et on a interrompu, quelqu'un de la CAF a interrompu la conférence de presse pour dire il faut tout reprendre, enfin il faut reprendre en tout cas le match pendant quelques minutes. Et alors là a commencé vraiment la scène, ou plutôt la séquence surréaliste qui va beaucoup
qui
faire
parler. Qui a duré quelques secondes, mais...
On est tous remontés. Alors en tout cas, ça a même duré quelques minutes pour se mettre en place, puisqu'il a fallu réinstaller tout le décor et même faire revenir les supporters maliens qui avaient quitté le stade. On les a rappelés, donc on les a vus reprendre place. On a vu les joueurs maliens un peu étonné reprendre leur place sur le terrain. Et alors on nous avait dit au départ que c'était les Tunisiens qui avaient insisté pour qu'on reprenne le match parce qu'ils se sont floués. Or les Tunisiens, on ne les a plus jamais revus, ils sont partis par la petite porte, pour reprendre l'expression de Joël Wadem, et on ne les a plus jamais revus. Donc les Maliens sont restés quelques secondes sur le terrain tout seuls. Le quatrième arbitre devenu premier arbitre, parce que le Zambien, il avait un peu disparu du tableau, a sifflé finalement quelques secondes à la fin du match. Bon bref, c'était absolument surréaliste. Ce qui est certain néanmoins, et ça c'est peut-être une information qu'on n'avait pas tout à l'heure dans la première émission à Nice, c'est que un responsable de la délégation tunisienne a parlé d'une réserve déposée. Alors a-t-elle été déposée, va-t-elle être déposée? En tout cas, l'idée serait que les Tunisiens ne se laisseraient pas faire.
Justement, on va l'entendre parce que Joël Wadem, il l'a par la petite porte, hein, il l'a coincé,
le chef de
la délégation tunisienne, Jelaya Hussein, et on l'entend évoquer ses réserves.
L'arbitre a sifflé la fin de la rencontre avant la fin du temps réglementaire. Nous avons signalé les choses au coordinateur du match après la rencontre, comme les règlements le stipulent. Personne ne nous a demandé de revenir pour l'instant. On a réclamé la réserve qu'on doit faire.
Voilà, réserve a priori déposée. Alors, cet arbitre, on en a parlé tout à l'heure, il a pas mal de casseroles, comme on peut dire, parce que cet arbitre zambien s'est déjà illustré sur la scène africaine, même si il a déjà participé à une Coupe du Monde en 2018. Mais il y a
peut-être... Il en a fait deux, je pense.
En tout cas, celle de 2018.
Cet arbitre-là, bon, il ne faut pas m'en parler, parce qu'en 2013, il avait déjà fait n'importe quoi avec l'Algérie, mais on va pas revenir sur son CV.
Il y a quelques infos peut-être supplémentaires. Et alors, on était avec Eric Rabessandratana quand on a regardé ce film, mais on avait quand même l'impression que cet arbitre avait un problème de montre.
Eh ben c'est le cas, Annie, puisque bon, moi j'ai quelques échos, alors sans dévoiler qui. Bon, ben voilà, du côté de la sélection tunisienne et de joueurs sur le terrain. Bon, je vous lis ce qu'on me dit. Hein. Sache que l'arbitre avait 10 minutes d'avance sur sa montre. À la 79e minute sur le terrain, il nous regarde et il annonce 5 minutes de temps additionnel. Ouais, là, on n'a rien compris. Donc, il y a eu un problème, problème de réglage, enfin de sa montre au début du match. Il s'est peut-être, certes, alors je sais pas. Hein, c'est ce que je déduis. Il s'est peut-être trompé.
Alors, justement,
J'ai de la chance d'avoir échangé avec
l'arbitre, parce que là c'est fort.
Un arbitre qui le connaît très bien, Eric Otogokastan, qui vient de prendre sa retraite, un arbitre gabonais qui a expliqué
le brillant arbitrage de République démocratique du Congo contre Bénin. Ouais.
Bref. Il connaît très bien son collègue. Il explique en gros, dans les échanges qu'il a eus avec quelques-uns de ses collègues, que c'est que pendant l'une des pauses, pause fraîcheur qu'il a eue, l'arbitre n'a pas eu le réflexe d'arrêter sa montre. Et donc, premièrement, quelques collègues expliquent aussi que déjà au début du match, il se sentait pas très bien et il a pas voulu le dire apparemment. Et puis pendant le match, il a souffert de cette chaleur-là. Il n'a pas eu le réflexe d'arrêter sa montre.
Ça, c'est pas la version officielle.
Non, pour l'instant, non. Après, je t'explique ce que on m'explique. Ouais. Donc, en gros, il a pas arrêté sa montre. Donc le retard de 5-10 minutes, etc. Et puis derrière, c'est passé ce qui s'est passé. Mais ce qui est intéressant de savoir également, avant évidemment de commencer à cogner sur l'arbitre, c'est que c'est quand même...
On ne peut pas le féliciter non plus.
On peut le féliciter. Justement, en interne, on explique que c'est parmi les deux meilleurs arbitres du continent derrière Gassama. Ça peut te faire rigoler, Nabil.
Bien sûr que ça me fait rire.
C'est facile de taper dessus, mais je t'explique que sur la forme...
Il a sali l'image du football
sur
africain.
Sur la forme, c'est... Bon, c'est ça qui me choque le plus, c'est qu'il fait partie quand même des deux meilleurs arbitres du continent. Il était il y a quelques jours
Il y a beaucoup de réserves quand même sur ce personnage. Non, effectivement.
Ce que j'ai dit, c'est que c'est le plus choquant, c'est que c'est l'un des meilleurs.
Il a été l'homme de Primero Agosto, Espérance de Tunis. Il a un CV aussi
long. Je t'explique. C'est facile de taper dessus, mais il faut aussi
comprendre. Ce qui est malheureux, c'est que pour cette première Coupe d'Afrique des Nations avec l'assistance vidéo, finalement, on arrive à un problème de chronomètre.
Non, mais c'est un truc qui arrive jamais, Xavier. C'est un truc qui arrive jamais. Je dois te demander pourquoi ce truc-là arrive. C'est quel arbitre qui arrête le match avant?
Elle est plutôt bien utilisée. Ouais. Et là, on a un problème de chronomètre. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce que c'est logique alors qu'en basket, on a des tables de chronométrage?
Non, mais il y a un problème de personne. C'est l'arbitre qui n'a pas été bon.
On a des tables de chronométrage en basket depuis 100 ans. Et au football, on a toujours un arbitre qui est au centre, qui a un chrono et en même temps, qui note ses petits cartons, qui note les numéros des joueurs avec ses petits cartons. Qu'est-ce que fait le quatrième officiel?
Hugo voulait rajouter quelque chose.
Oui, on n'avait pas de chronomètre affiché dans le stade, donc ça a pu aussi perturber l'arbitre. Concernant l'arbitrage vidéo, il n'a pas été toujours très lisible dans son utilisation, l'arbitre de la rencontre également. Il y a eu pas mal de moments un peu de flottement dans sa manière d'utiliser le VAR, de se référer aux images vidéo, notamment sur le pénalty tunisien, sur le carton rouge d'El Bilal Touré, le joueur malien qui a vu l'arbitre aller vérifier après déjà pas mal de minutes s'étaient écoulées après la décision. Il allait vérifier, puis alors Bilal Touré était là à côté de l'arbitre et puis qui lui a finalement confirmé le carton rouge. Et globalement, on l'a senti un peu hésitant dans son attitude. Alors peut-être était-il déstabilisé par d'autres facteurs. Ça, effectivement, n'est pas dans sa tête, mais c'est globalement une prestation difficilement lisible sur pas mal de décisions qui ne sont pas forcément contestables en tant que telles. Autre...
Oui, qu'est-ce Hugo, que vous avez terminé.
J'ai pas entendu.
Terminé, Hugo.
Vous avez tous parlé en même temps. Non, ce que je veux dire, c'est que au-delà du fond des décisions, parfois, ça a été son attitude qui était perturbante. Il y a un moment où la Tunisie obtient un coup franc très intéressant pour Khazri. Alors, C'est intéressant. D'un coup, c'est les Tunisiens qui s'énervent contre lui, comme s'ils pensaient que la décision qui paraissait logiquement, qui leur paraissait logiquement favorable, leur était défavorable. Donc même eux, quand il y avait une décision qui leur était favorable, ne comprenaient pas sa gestuelle et pensaient que éventuellement ils étaient sanctionnés. Donc il y a eu des difficultés pour cet arbitre à se faire comprendre, même quand les décisions étaient plutôt justes sur le fond. Alors quand elles sont en plus injustifiables en tant que tels ces arrêts de la rencontre avant terme, là forcément ça crée des tensions entre guillemets dramatiques, même si pour l'instant on n'a pas dépassé, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de bagarre, il faut aussi le souligner. Ça a été, ouais. Il y a eu quelque chose de surréaliste qui a quelque perturbé, part nous a aussi fait sourire aussi à l'IMB. Il faut aussi cette histoire d'image catastrophique renvoyée, je comprends ce cri du cœur. Mais on a aussi voulu sur place prendre les choses avec un peu de distance. Voilà, c'était surréaliste, c'était déconcertant.
Oui.
Mais il n'y a pas de violence.
Pour beaucoup de gens. Bon. En tout cas, Hugo, on rappellera quand même que le Mali est premier de son groupe avec la Gambie qui a donc remporté son match.
Exactement.
Et on se retrouve avec des aigles premiers qui ont battu les autres.
Qui pourraient être sanctionnés.
Et en plus,
sanctionné avec une victoire sur tapis vert parce qu'ils ont refusé de revenir. Et si ça doit être le cas, et si on respecte le règlement, si la CAF respecte le règlement à la lettre.
Attendez, les aigles maliens, ils sont revenus.
Non, les maliens,
non, 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 les aigles de Carthage. Les Tunisiens.
Les aigles de
Carthage. Il y a une sacrée prise de bec.
Il pourrait, dans ces cas-là, mais c'est important à dire, si la CAF fait respecter son règlement, bon, on verra, ça peut être 3-0 contre la Tunisie également. Ouais.
On verra ça. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir prolongé votre soirée avec
Merci
nous
à vous.
Dans Radio Foot International. Et à très vite pour la suite dans votre groupe. Demain, reprise des matchs dans le groupe A. C'est déjà la deuxième journée. Les Lions indomptables, vainqueurs des étalons lors de leur entrée dans la compétition dimanche devant, on s'en souvient, à peu près 50 000 spectateurs. Il y avait aussi le président de la République. Ils reviennent sur la pelouse du stade d'Olembe face au Walia d'Éthiopie. Les Camerounais, ils n'ont qu'une idée et qu'un but, évidemment, assurer dès demain leur qualification pour le prochain tour. Écoutez leur milieu de terrain, Samuel Umguet.
On essaye de corriger le maximum d'erreurs qu'on a au Burkina Faso et de voir ce qui a marché. On essaye de perfectionner aussi de ce côté-là. Et on aborde cette rencontre avec le même état d'esprit. On s'est dit, voilà, on veut juste gagner, c'est le plus important. L'état d'esprit, il est très très bon. Il y a un très bon groupe, une très belle ambiance, tout se passe très bien.
Vont-ils rugir demain, ces Camerounais, sur la pelouse face à l'Éthiopie,
Ils ont intérêt, parce que le match d'ouverture contre le Burkina Faso n'a pas quand même été très convaincant. Ils l'ont gagné, c'était le plus important, mais ils étaient menés 1-0. Il y a eu ces deux pénalties logiques pour Vincent Aboubakar qui les a transformés. Et puis derrière, on n'a pas vu grand-chose. Donc on attend beaucoup mieux du Cameroun, parce qu'ils ont un potentiel pour faire mieux. Alors face à l'Éthiopie, qui a été battu logiquement aussi par le Cap-Vert en ouverture... Oui. Ils ont l'adversaire idéal pour se relancer, pour montrer qu'ils comptent parmi les favoris de cette compétition pour faire plaisir à leurs supporters.
Surtout pour se qualifier.
Se qualifier aussi, bien sûr. Mais j'attends beaucoup de ce Cameroun parce que, pour le moment, ils nous laissent sur notre faim.
Le but, c'est pas tant de faire du beau jeu, etc. J'ai eu de la chance de... J'ai regardé, comme beaucoup de gens, le discours de Samuel Eto'o après le match. Il y avait beaucoup de soulagement parce qu'il y avait énormément de pression autour de cette CAN-là, énormément de pression autour de ce premier match. Samuel, d'ailleurs, en tant que président, a gagné son premier match. Mais ce qui est sûr, c'est que le deuxième match va être beaucoup plus relaxant que le premier, parce que derrière, je pense que les joueurs vont se lâcher. Je pense qu'il y aura aussi un petit ajustement dans l'effectif et surtout la compo de départ. Ça va attaquer un peu plus. Et puis, Dieu merci, je pense, dans la configuration de l'Éthiopie, il y a de quoi amener de la vitesse et surtout de la percussion, parce que les Camerounais, pendant les matchs éliminatoires, ils jouent beaucoup plus en contre avec cet effectif-là que la construction du jeu.
Non, mais pour moi, il y a le premier match, effectivement. Bon, je trouve qu'on est un peu sévère parce que c'est quand même le premier match. Il faut lancer la machine, il y a une pression incroyable. Ouais. Cette CAN, il y a une intensité émotionnelle, elle a été reportée.
Voilà, c'est ça.
Il y a un contexte
d'attente pour le public.
Voilà, et puis pour
enfin voir leur
tout à fait, et pour les joueurs.
Équipe à domicile.
Vous avez raison, ils ont réagi, c'était pas simple, c'était un match piège face au Burkina Faso. On connaît bien le Burkina, c'est une bonne équipe, ils perdaient 1-0. le Cameroun, ils ont quand même renversé la situation, ils ont mis les ingrédients pour revenir. Ça, ça témoigne quand même déjà d'une une certaine force mentale. Mm-hmm. Parce qu'à domicile, vous imaginez le fiasco s'ils avaient, oui, pour le match d'ouverture, été accrochés ou battus par le Burkina.
Surtout où ils étaient sortis l'année dernière avant la finale.
Tout à fait. Mm. Et face à l'Éthiopie, je pense qu'ils vont faire la différence. Pourquoi ? Parce qu'une équipe éthiopienne, c'est une équipe qui est joueuse, qui a de la mobilité, mais elle ne sait pas défendre. Et le Cameroun, avec sa puissance et son talent et ses quatre offensifs, normalement, elle doit faire la différence demain face à l'Éthiopie. Moi, je mets deux buts d'écart si on doit me demander mon avis minimum.
Il faut rappeler une chose, c'est que l'Éthiopie a joué à 10 pendant 80 minutes.
À 10 à Bébar.
Oui, joli. mais c'était là, en l'occurrence, c'était Yared Baye-Belé qui s'était fait exclure au bout de 10 minutes. Et ils perdent que 1-0 contre le Cap-Vert, qui est une bonne équipe, le Cap-Vert. Ça joue au ballon.
Oui, c'est une équipe pour la gratter, le Cap-Vert, qui peut embêter.
Oui, c'est une bonne équipe. Donc, 3-4-0, ils ont intérêt à être bons, les Camerounais, parce que les Éthiopiens, s'ils jouent déjà tout le match à 11, ce sera peut-être un peu plus compliqué.
Ouais, mais ce n'est pas à 2000 mètres d'altitude. Ils ont un peu plus de mal quand ils reviennent au niveau de la mer, les Éthiopiens. Ouais, parce que leur résultat, il est foncier.
Il y a 3 jours à 10 contre 11, pendant 80 minutes, ils perdent 1-0.
Ce qui est sûr, c'est que l'Éthiopie, ça joue, mais je pense que mentalement, là, les Camerounais, ils sont un peu plus gonflés. Et quand on sait, d'ailleurs, les cannes à domicile, les matchs à domicile, ils n'ont pas perdu depuis quoi, 20 ans à domicile. Ouais. C'est super compliqué de les bouger.
L'autre match, ce sera le Burkina Faso qui se retrouvera justement face à... Alors eux, ils ont perdu donc ce premier match, puisque c'était contre le Cameroun. Alors la chose, c'est que les Burkinabés récupèrent leur défenseur central, qui est Edmond Tapsoba.
Très bon joueur.
Mais malheureusement, le Covid qui avait touché 5 joueurs au premier match, eh bien là, il en touche encore 4. Et notamment, écoutez bien, le capitaine emblématique Bertrand Traoré. Il y a aussi le défenseur Soumaïla Ouattara, le milieu Saïdou Simporé et l'attaquant Dango Ouattara. Écoutons l'attaquant, Cyril Bayala, qui est coéquipier de Bertrand Traoré et qui raconte pourquoi il va manquer à leur équipe demain.
Il est technique et c'est quelqu'un qui peut faire la différence à n'importe quel moment. C'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer des grands matchs, donc je pense qu'il est assez tranquille, il est assez à l'aise avec le ballon. Donc c'est un peu plus facile pour lui de toujours proposer des solutions et créer la différence. Surtout que voilà, on compte beaucoup sur lui et que c'était notre capitaine, donc il a à cœur de faire la différence. Donc voilà pourquoi il demande très souvent le ballon. C'est ce qui va peut-être nous manquer, mais voilà, ceux qui vont prendre sa place, ceux qui seront là, j'ai confiance en tout le monde, chacun va faire son effort pour faire le maximum pour gagner ce match.
Cyril Bayala au micro de Christophe Jousset, l'un de nos envoyés spéciaux à Yaoundé. C'est dur pour les étalons, ce contexte, on a l'impression qu'il y a un peu de fatalité.
Oui, fatalité, et puis on a l'impression qu'il y a un acharnement, le contexte du premier match, l'impression de l'injustice et tout, et puis derrière vous perdez votre... Pas que la star, pas que le meilleur joueur, c'est l'idole de cette équipe-là, Bertrand Traoré. C'est d'ailleurs celui qui a amené le plus de dangers sur le front de l'attaque. Ça va être super difficile mentalement, mais... sur les dernières camps, j'ai vu qu'ils savaient puiser dans leurs réserves, souvent, même si c'est vrai que devant, là, ils manquent de leaders, ils n'ont plus Traoré, ils n'ont plus de vrai, il n'y a plus Bansé comme à une bonne époque. Mais ce qui est certain, c'est que derrière, mentalement, les Burkinabés, ils sont super forts mentalement. Ce type de match-là, ils peuvent se saigner pour pouvoir relever la tête.
Xavier, on a vu par exemple les Panthères jouer sans Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina et s'imposer.
Oui, c'était...
C'est presque un sursaut, en fait.
Après, voilà, c'est les groupes, parfois, quand ils ont affaire à des coups du sort comme ça, ils savent se remobiliser, ils savent se ressouder autour de leurs points forts et en tirer une énergie supplémentaire. Moi ce Burkina Faso, franchement, face au Cameroun, c'est pas le Cameroun à domicile, ils perdent pas. Donc là en revanche, ils jouent contre le Cap-Vert, déjà pour la qualification. Parce que le Cap-Vert lui a gagné et le Cap-Vert peut viser effectivement une place en huitième de finale directe. Ouais. Après, s'ils ne gagnent pas, ils vont se retrouver dans le jeu des meilleurs troisièmes et là, ce sera plus compliqué.
En tout cas, ça va être un beau match parce que ce sont deux équipes joueuses. Et moi, cette équipe du Cap-Vert, on n'en parle pas beaucoup, mais elle joue remarquablement bien au foot.
On connaît bien certains des joueurs.
Non, mais tout a été dit. Bon, le Burkina Faso, de toute façon, des coups du sort, ils en ont enchaîné. Même quand ils ont joué les matchs de barrage pour les éliminatoires Coupe du Monde face à l'Algérie, Bertrand Traoré n'était pas là, par exemple. Et ça ne les a pas empêchés de contester clairement la sélection algérienne. C'est un collectif qu'on sous-estime un petit peu. Le retour d'Edmond Tapsoba va leur faire du bien au niveau de l'assise défensive, parce que si Edmond Tapsoba est là face au Cameroun, à mon avis, il y a peut-être certaines situations défensives qui auraient été mieux gérées, puisqu'avec Youssoufou Dao, il forme la charnière centrale. Il manque certainement, par contre, d'arguments offensifs, qu'on le veuille ou non, même s'il y a de la qualité de projection. Et surtout, j'ai trouvé Bertrand Traoré vraiment très bon face au Cameroun, impliqué et taille patron dans l'attitude. C'est quand même un coup dur, je trouve, pour nos amis du Burkina.
Espérons qu'il passera vite à négatif et qu'on le retrouvera dans le dernier match de cette phase de groupe. Allez, un petit crochet. On pensait vous parler de un certain Kingsley Coman, mais peut-être qu'on va repousser la discussion parce que ce soir, eh bien, il y a eu un classico et il y a un vainqueur à cette heure.
Casemiro maintenant. Oh, attention, il y a un 3 contre 2, un 4 contre 2 même à jouer pour le Real Madrid. Il y a droit sur Rodrigo qui va être servi. Rodrigo qui va en centrer.
Oh, bien joué.
Il laisse pour Benzema. Oh, et derrière, il y a surtout Valverde, me semble-t-il. Énorme, la 98e minute. Le numéro 15 brandit dans cette prolongation. Le Real qui reprend l'avantage. Ça fait désormais 3-2.
Et ça s'est terminé sur le score de 3-2 après prolongation là-bas à Jeddah. Ouais. C'est Federico Valverde qui inscrit le but de la victoire. Les Barcelonais n'ont pas été faciles à battre.
Je viens de recevoir un petit message de Rémi qui me dit de dire « Xavier Barré, est-ce que ça va bien ici ?» Non, mais ça a été un super match. En plus, à Nice, c'était sympa parce que dans le bureau, on regardait en double écran la rencontre. Mais ça allait super vite. J'avais l'impression de voir un match de Première Ligue. Ça a été un très, très beau classico comparé quand même au précédent où il y a eu beaucoup d'activités. Et surtout, ils se sont rendus coup pour coup avec un superbe Benzema. Encore une fois, avec cette doublette, les Vinicius devant, ça a été remarquable. Mais... techniquement, c'était très fort aussi.
Que le Real Madrid s'impose, tout le monde s'y attendait, puisqu'actuellement ils sont largement au-dessus du Barça. Mais que le Barça soit capable de leur tenir tête comme ils l'ont fait, d'aller chercher la prolongation après avoir été mené au score, de revenir deux fois. Hein, ils étaient menés.
Un match de coupe, Xavier. Un match de coupe, quoi.
Non, un vrai classico qui a tenu ses promesses et avec un Barça qui est loin d'être enterré avec
Qui ne jouait que ça comme titre.
Ces jeunes, ça on verra. Cette année. Ça, on verra. Mais tous ces jeunes que Xavi a lancés, il arrive à panacher avec des joueurs qui ont plus d'expérience. Moi, je trouve que tout ça, c'est d'excellent augure pour l'avenir du Barça.
C'est pas le même état d'esprit, Xavier, parce que, comme je dis, après, c'est vrai que...
Mais sort de ce corps, Rémi Nzono.
C'est pas Rémi, je suis un madridiste, un grand fan de Zidane, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, le Barça a quand même montré une bonne résistance, avec... il s'est quand même tapé le luxe de mettre sur le banc de touche Memphis Depay, et puis derrière il arrive à produire du jeu et surtout reprendre coup pour coup.
Comment était Dani Alves, Xavier?
Après, il s'est fait manger par Vinicius.
Peut-être qu'on lui en demande un petit peu trop à Daniel Alves.
Il s'est fait manger par Vinicius, Xavier.
Non plus le contexte, c'est qu'on est en Arabie Saoudite, que les Saoudiens payent très cher pour avoir cette super coupe d'Espagne qui a été montée de toutes pièces pour eux,
avec des demi-finales
et une finale.
120 millions d'euros.
Voilà, ce qui s'est jamais vu dans une super coupe. La super coupe, c'est traditionnellement le champion contre le vainqueur de la coupe. Là, on rajoute deux autres équipes. On fait une espèce de mini tournoi.
Mais il n'y a pas de classico en finale.
Voilà, et l'année dernière, déjà, il n'y en avait pas eu non plus. D'ailleurs, ça, je crois que c'est la troisième édition. Il n'y a toujours pas
deuxième,
eu.
Deuxième, parce qu'il n'y en a pas eu une justement à cause du Covid l'an dernier.
Oui, ils l'ont fait à Séville. Et donc, du coup, il n'y a jamais eu de Real Barça en finale pour le moment. Donc, les Saoudiens vont peut-être devoir payer encore plus cher pour l'avoir. Mais bon, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il fallait aussi mettre des visages un peu connus pour le public saoudien qui était au stade, parce qu'il vient voir les stars. Et donc, forcément, vous lui donnez le choix entre Daniel Alves et Serginho Dest ou je ne sais trop quel jeune du Barça.
Bah non, il
veut voir Daniel Alves.
Non, mais Xavier, t'as pas regardé les derniers matchs du Barça. Il a été pas mal dans le jeu. Il a apporté un petit truc. Contre Granada, il a fait une passe décisive. Simplement, ce soir, il est tombé sur certainement le meilleur joueur de Liga ces deux derniers mois. Vinicius, il a littéralement mangé sur le côté gauche. Donc,
il a 38 ans, Daniel Alves. C'est normal. Le dernier match dont tu parles, il n'était pas utilisé comme arrière droit. Il est utilisé comme milieu de terrain, donc c'est plus lui qui est au marquage.
Nabil, sur ce classico.
Bref, le Real a gagné.
Bah écoutez, je l'ai regardé d'un œil parce que j'étais quand même passionné par la Coupe d'Afrique des Nations et notamment ce match.
On a tous un peu louché.
Ce que j'ai vu, c'est surtout des accélérations de Vinicius qui est quand même ingérable, comme l'a dit Freddy, sur les deux derniers mois. Je suis assez d'accord avec Xavier. Le Barça est en train de poser les bases de son jeu. De demain.
Avec sa dream team, comme disait l'équipe
après,
aujourd'hui.
Après, pour gagner du crédit et du confort, il faut des résultats.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous de nous avoir suivis dans notre deuxième édition et on vous donne rendez-vous demain soir à 21h10 en temps universel.
C'était Radio Foot International avec Canal+, diffuseur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Retrouvez l'intégralité de la compétition sur les chaînes Canal+ Sport.
Témoin d'actu, le podcast